vais vous parler, poser quatre questions relatives à la globalisation économique. Alors, je suis professeur de géographie économique, donc c'est pour ça que je parle de ça, mais aussi parce que je suis convaincu que l'économie est une des trois grandes grammaires du monde. Il y a trois grandes grammaires dans le monde. Il y a l'économie, le droit, la façon dont l'économie, notamment l'économie internationalisée, s'inscrit dans les sociétés. Elle le fait à travers le droit et la technologie. Donc, je pense que dans les réformes qui viendront sur l'enseignement secondaire, on mettra... oui. Eh bien, donc, je disais, je pense et j'espère que dans les réformes qui viendront, on mettra l'économie, le droit et la technologie comme matière fondamentale pour tout le monde le plus tôt possible, parce que sinon, on rate les grandes grammaires du monde contemporain. On n'est pas forcé de faire que ça, mais c'est absolument essentiel de tous connaître les règles de l'économie, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Je me suis fondé sur des ouvrages qui sont, enfin, mes ouvrages de référence sur la globalisation, notamment la dimension économique. C'est un ouvrage de Pierre Vels, je pense qu'on indiquera ça sur le site, je ne vais pas détailler, de l'UTLS. Un autre de Charles-Albert Michalet, je cite les noms pour ceux qui les connaissent et pour que vous puissiez les retenir et les retrouver facilement sur le site. Paul Krugman, qui a écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, « La mondialisation n'est pas coupable ». Et puis, je cite aussi un atlas tout à fait récent, publié par Le Monde, c'est un hors-série du Monde, qui s'appelle « Atlas des mondialisations », je crois que c'est comme ça. Vous le trouverez facilement, il y a toute une série de cartes, je suis géographe, j'aime bien les atlas, vous verrez, c'est très intéressant. Donc, je pose quatre questions. Première question, en quoi y a-t-il un tournant dans les années 80 et retournant en 2008, la crise? Oui, il y a eu deux tournants importants, donc une approche un peu historique de la globalisation. Deuxième question, la globalisation est-elle coupable? De quoi est-elle coupable? Vous savez qu'on l'accuse de beaucoup de choses. Troisième question, est-ce que nous sommes en train de rentrer dans l'ère de la re-régulation? L'idée principale, c'est que pendant trois décennies, en gros, nous avons tous vécu, vous avez été les contemporains, vous êtes nés, vous avez vécu une phase de l'histoire qui s'appelle la dérégulation, la déréglementation, c'est-à-dire la remise en cause des réglementations nationales pour adapter les économies nationales à la nouvelle réalité mondialisée. Donc il a fallu casser, remettre en cause un cadre conceptuel, institutionnel, juridique qui avait été mis en place pendant des décennies et des siècles pour adapter le pays à la situation nouvelle. Donc maintenant qu'on l'a fait, la question c'est comment on re-régule les relations, et notamment les relations internationales. Donc sommes-nous, oui ou non, entrés dans une ère de re-régulation, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus organisé que la libre organisation des marchés? Et enfin, quatrième question, dans cette re-régulation, les grandes régions, comme l'Europe, seront-elles des laboratoires de la mondialisation? Alors, brièvement, le tournant des années 80, je vais aller vite parce que ce sont des choses connues. Vous savez qu'il y a peut-être qu'il y a des thèses qui datent plutôt des années 90, des chercheurs qui ont dit n'insistez pas avec la mondialisation, calmez-vous. On assiste dans les années 80-90 au retour d'échanges internationaux qui étaient plus importants à la fin du 19e siècle. Donc quand vous regardez les taux d'exportation, par exemple, vous apercevez qu'ils étaient plus au moins aussi importants à la fin du 19e siècle. Puis après, il y a une grande phase de réorientation intérieure des économies ou à l'intérieur des grands empires. Et donc, il a fallu attendre la fin du 20e siècle, la décolonisation, la création de l'Union européenne, pour voir repartir des échanges véritablement globalisés, internationaux. En réalité, ces chercheurs ont tort. Enfin bon, je crois que là, maintenant, la messe est dite. Il y a eu plusieurs phénomènes qui montrent que, en gros, dans les années 80, c'est difficile de trouver une date, si vous voulez. Les choses ont commencé progressivement, mais les choses s'accélèrent à partir dans la décennie 80. D'abord, vous avez une accélération de la révolution de la mobilité. La révolution de la mobilité, ça fait partie de ces choses que vous entendez, dont vous entendez parler systématiquement. On sait qu'on est plus mobile, qu'on va plus loin, qu'on va plus vite, qu'on envoie des emails partout, bien sûr, tout ça est mobile, les capitaux. C'est pas parce que c'est devenu trivial et bien connu que c'est pas important. C'est une révolution majeure des sociétés contemporaines. Il y a deux révolutions majeures, enfin, il y en a quelques-unes, mais la révolution des femmes, la place des femmes, la révolution de la mobilité, vous voyez, il y en a trois, quatre comme ça, hein, des grandes transformations sociétales de notre monde depuis quelques décennies. La révolution de la mobilité, donc baisse des coûts de transport, modernisation du système de transport, baisse des obstacles au transport, déréglementation des transports pour permettre une libre circulation sans contrainte administrative à l'échelle du globe, baisse des droits de douane, bon, vous connaissez tout ça, ce qui fait que maintenant, les produits arrivent libres de droits, pratiquement 3-4% en moyenne, dans tous les pays industrialisés. Ça veut dire que vous avez une généralisation des échanges qui est rendue possible. On a là la traduction de la position du GATT puis de l'OMC depuis plusieurs décennies. Deuxième transformation, celle-là qui est plus datée dans les années 80, c'est la mondialisation du système productif. C'est le grand phénomène de l'explosion des investissements directs étrangers. Vous connaissez tout ça. Et le fait que, à partir des années 80, là aussi il n'y a pas de date fixe, mais c'est la décennie, ce n'est pas simplement les marchés qui s'internationalisent, c'est la production et les usines. Les usines vont à l'étranger, si vous voulez. On n'exporte pas des biens et des services, on exporte des usines. Donc vous avez une explosion des investissements directs étrangers, ce qui permet aussi de comprendre le rôle de la finance et de la dérégulation financière. Il y a une telle redistribution productive des cartes dans les années 80, que pour réussir leur mondialisation, les firmes ont eu besoin de moyens financiers. Et donc, la dérégulation financière des années 80 s'explique par le besoin de fournir aux entreprises en cours de mondialisation très rapide les moyens financiers de leur expansion. Hein, donc, il y a une concomitance forte entre cette mondialisation du système productif et la multiplication des mesures aux États-Unis d'abord, en Angleterre, en Europe, au Japon, etc., de déréglementation de l'industrie financière, déréglementation, c'est-à-dire remise en cause de ce qui avait été mis en place en 1929. Donc vous voyez qu'on est dans des rayons de courbure historiques assez grands et importants. La grande crise de 1929, qui a amené la guerre, la régulation des affaires financières mondiales et la dérégulation de cette industrie financière dans les années 80. Très bien. Autre aspect de cette mondialisation du système productif, c'est ce qu'on peut appeler la synchronisation de l'économie mondiale. Au lieu d'avoir des paquets qui travaillent chacun dans leur coin, vous avez une production mondiale qui maintenant travaille en synchrone, dont les trois places financières, Tokyo, Londres, New York, sont une métaphore, mais en réalité, toute l'économie mondiale a tendance à s'organiser de manière synchrone, ce qui a beaucoup de conséquences. Une des conséquences, c'est que vous avez la fin des ce qu'on appelle des évolutions contracycliques. Jusqu'aux années 80, quand l'Europe allait mal, le Japon allait mieux, mais maintenant, avec la synchronisation de l'économie mondiale, quand ça va bien partout, quand ça va mal partout, ce qui fait que les cycles positifs ou négatifs sont accentués. Donc on est durablement installé maintenant dans une phase de cycle chaotique, fort, accusé de la conjoncture économique. Deuxième conséquence, elle porte sur le rapport au temps, c'est-à-dire que la maîtrise du temps dans cette synchronisation devient plus importante que la maîtrise de l'espace. J'ai un petit, si vous voulez bien passer, appuyer sur la petite flèche, là, voilà. C'est bien, si vous pouvez laisser les deux. À gauche, vous avez le cycle du produit que vous connaissez tous, c'est-à-dire vous avez des phases pendant 5-10 ans d'innovation d'un produit, il coûte cher, puis après la maturité, puis après l'obsolescence. Et dans l'obsolescence, on délocalise dans les pays du tiers-monde parce que la technologie est devenue mature. Et donc, ce qui a été développé dans la Silicon Valley ou aux États-Unis, après industrialisé en Europe, termine dans les productions à bas salaire d'Asie ou du Maghreb ou d'Amérique latine. Ça, c'était avant. Maintenant, avec le raccourcissement du cycle du produit, si vous voulez, la maîtrise du temps est déterminante, c'est-à-dire qu'il faut accéder à la technologie très vite pour pouvoir offrir des produits compétitifs, parce que si vous attendez 2 ans, ben, pouf, vous ratez le cycle et vous êtes déjà dans le cycle d'après. Et donc, il faut faire votre argent très rapidement. D'accord ? Donc, ça veut dire que la maîtrise du temps, la maîtrise des moyens de communication, la maîtrise de l'interaction entre les acteurs qui concourent à une production, cette maîtrise des dispositifs complexes devient absolument centrale. Le problème n'est plus, le problème n'est plus d'exploiter les gens à bas salaire, c'était le bon temps. C'est terminé. On peut dire que les riches n'ont plus besoin des pauvres. Ou s'ils ont besoin des pauvres, ils ont besoin de pauvres qui soient ingénieurs ou techniciens, qui sachent participer au même système productif, comprendre les bases de données, échanger avec des machines-outils à commande numérique complexes. Donc, des techniciens chinois, d'accord, pas cher, ok. Mais des pauvres, façon ancienne délocalisation, c'est terminé. Donc on insiste beaucoup sur la question des délocalisations. En réalité, les délocalisations classiques, celles de l'ancienne division internationale du travail, celle de la partie gauche du graphique, celle de la phase d'obsolescence, c'est terminé. Il n'y a plus de phase d'obsolescence, il n'y a plus de division internationale du travail classique. Et donc, nous travaillons, pays industriels, avec d'autres pays industriels, qu'ils soient riches ou pauvres, mais des pays industrialisés. Et puis, troisième phase qui commence dans les années 80 et s'accentue dans les années 90, c'est la mondialisation financière. C'est donc le boom des investissements de portefeuille, non pas un investissement direct, mais je place 1 ou 2%, je prends 1 ou 2% du capital dans telle ou telle affaire. Et qui n'est pas simplement le fait des grandes banques d'affaires, c'est aussi le phénomène, si vous voulez, on y viendra dans la discussion, de ce qu'on appelle les remises migratoires. C'est-à-dire les immigrés envoient de l'argent chez eux, 300 milliards de dollars en un an sur la planète, c'est énorme. Donc ça veut dire que cette globalisation financière, c'est à la fois les grands comptes et les petits. Ce n'est pas les méchants et les gentils, c'est pas ça. C'est les grands comptes et les petits, il y a de tout là-dedans. Moi, j'ai cité Charles-Albert Michalet, qui est le spécialiste français et même européen sur les firmes multinationales, qui explique que ces trois mondialisations ne se substituent pas, mais se conjuguent. La première mondialisation, c'était la mondialisation commerciale. La mondialisation qu'il appelle commerciale ou internationale, celle des années 50-60. Celle qui était pilotée par les États, qui développaient leurs champions nationaux, qui rassemblait les groupes industriels chacun au Japon, en Corée, en Italie, en France, en Allemagne, pour être fort à l'export. Et où le critère essentiel, c'était une balance des paiements équilibrée ou excédentaire. Puis après, vous avez une deuxième phase, celle qui commence en gros dans les années 80, qui est la phase non pas internationale, mais multinationale, celle des firmes multinationales, celle que je viens de décrire à travers la globalisation des firmes. Et où là, l'acteur principal n'est plus l'État, c'est terminé, c'est la firme multinationale. Et où l'indicateur essentiel n'est plus l'équilibre de la balance des paiements. La balance des paiements de la France ou des États-Unis est déficitaire, m'en fiche. Moi, ce qui compte, moi, firme multinationale, qui suis l'acteur principal, c'est mes parts de marché. L'indicateur central, c'est les parts de marché. Et puis, dans la globalisation financière, là, l'acteur principal, c'est plus la firme industrielle, c'est la firme financière, c'est les hedge funds, les fonds de pension. Et là, le critère principal, c'est le ROE. Vous savez ça, je dis en anglais, comme ça... Ça fait plus chic et ça fait plus vrai. Return on equity, retour sur investissement, 15% minimum. Et donc ce que dit Charles-Albert Michalet, c'est qu'il y a eu non pas substitution, mais conjugaison de ces trois mondialisations. La mondialisation internationale commerciale continue, la mondialisation productive, le redéploiement spatial mondialisé du système productif continue, et la globalisation se rajoute, et tout ça se conjugue. Et vous savez par exemple que des fonds de pension détiennent maintenant la moitié du capital de nos grandes entreprises françaises. En Italie, c'est 60%. Donc, vous avez une interaction. Et donc, je termine sur cette argumentation sur le tournant des années 80, pour vous dire que vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé, en disant donc qu'on est vraiment dans une situation systémique. Alors, j'aime pas trop le terme systémique, parce que, bon, ça veut tout et rien dire, tout est systémique, bon. Mais là, on a vu les trois mondialisations. Mondialisation des normes, la question des normes. Maintenant, compte tenu que ce ne sont plus les normes nationales qui prévalent, vous avez une véritable concurrence dans les normes de production, de management, de gouvernance. Quelles sont les bonnes normes? Quelles normes utilisez-vous? Est-ce que vous ne trouvez pas que les miennes sont meilleures? Je vais vous imposer mes normes. Cette mondialisation a un versant normatif absolument déterminant. Et si vous voulez, voilà, ben c'est voilà. Vous avez notamment autour de la notion de bonne gouvernance des discussions essentielles sur qu'est-ce que c'est que le développement. Donc par exemple, on peut dire en bas c'était le Serbie-Monténégro, la Banque mondiale, remarquable outil d'analyse du développement. Remarquable, plus grande concentration mondiale de spécialistes, de données, de bases de données sur le développement. Remarquable. Donc, rapport sur le développement, tous les rapports de la Banque mondiale sont les livres de chevet de tous les gens qui s'intéressent au développement économique mondialisé. C'est la base. Hein. Et c'est très bien fait. Bon, vous connaissez ça. Sinon, vous regardez ça. C'est vraiment super. Tout ça est en ligne. Bon, c'est top. Le seul problème, c'est que Mais bien sûr, les débats sont intenses à l'intérieur de la Banque mondiale. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais que ce qui prévaut, c'est une certaine vision de la bonne gouvernance, comme les checklists à l'américaine, dont vous voyez certains des items, ceux qui ont des bons yeux, c'est-à-dire nombre de jours qu'il faut pour ouvrir une société, nombre de jours qu'il faut pour passer une marchandise en douane, nombre d'actes administratifs pour, je sais pas, pour avoir une activité commerciale. Vous avez tout ça. Et vous avez en bas la traduction de la modernisation de la Serbie-Monténégro en 2004 ou 2005 au regard de ces critères. Ben, ces critères, ce sont des normes. C'est les normes d'une partie de la Banque mondiale qui finit par s'imposer partout. Et évidemment, vous voyez avec la crise financière en Europe que les normes de gestion intéressent aussi les pays développés. Ça intéresse aussi les cochons. Les pigs. Mais après les pigs, il y aura la France. Les pigs, c'est Portugal, Irlande, Grèce et Espagne. Donc la question des normes de management, des normes de la gouvernance, c'est pas simplement pour les PVD. C'est une question mondialisée. Et bien sûr, là, vous avez toute une série de débats sur lesquels je n'insiste pas, sur quelles sont les normes. Y a-t-il des normes européennes spécifiques? Ou les normes anglo-saxonnes, notamment américaines, doivent-elles s'imposer? Les Chinois vont-ils imposer d'autres normes? L'émergence des grandes puissances pauvres, Inde, Chine, qui resteront pauvres pendant longtemps, pays riches de pauvres. Pays riches de pauvres. On n'a pas connu ça. Il va y avoir des pays riches de pauvres. Leurs normes sont différentes. Leur préférence pour le développement plutôt que la protection sanitaire ou environnementale, etc. etc. Ben oui, c'est des pauvres, ils s'en foutent. Donc les normes ne sont pas les mêmes. Donc vous pouvez voir, il y a déjà une bataille de normes qui est le champ dessiné par le dépassement de l'État-nation et le fait qu'il faille trouver des normes au nom desquelles réguler, faire des politiques. Mondialisation aussi des préoccupations de protection. Protection de l'environnement, protection militaire. Donc, les enjeux sont systémiques, sont mondialisés, donc les réponses doivent être systémiques et mondialisées. Et puis, un dernier élément qui montre bien la caractéristique de cette période dans laquelle nous sommes entrés, c'est l'urbanisation, c'est-à-dire l'urbanisation, je suis géographe, l'urbanisation, la généralisation de l'urbanisation, c'est quoi? Pourquoi tout le monde s'urbanise? Pourquoi il y a une telle accélération de l'urbanisation? Pourquoi l'urbanisation est-elle sans doute une des deux principales grandes politiques de la Chine? Pourquoi la Chine a-t-elle pris le parti d'urbaniser sa population? Pour des raisons complexes, mais pour le dire vite, parce que la ville correspond au territoire de l'économie contemporaine, à l'économie de l'échange, à l'économie de la connaissance, à l'économie de la circulation, à l'économie de l'innovation. C'est le territoire qui correspond à cette économie-là. Ça a toujours été. Mais comme l'économie maintenant est centrée sur ces notions, eh bien, son territoire devient l'Europe. Et donc, le monde entier est urbanisé. Et d'ailleurs, les migrants, je n'ai pas prévu de parler des migrants, j'espère qu'on en parlera dans vos questions. Enfin, les migrants, ma bonne dame, ne sont plus les migrants d'avant. Les migrants étaient ruraux, ils sont urbains, ils sont diplômés. Ils sont, vous savez, plus diplômés que la moyenne des Français, vous savez ça? C'est un peu désagréable. Donc, on voit bien que l'urbanisation est devenu un horizon commun des sociétés contemporaines. Deux mots sur le tournant de 2008, de la crise. Deux mots. Le premier, c'est inversion de croissance. Tout le monde a compris qu'on en a pris dans le Nord pour au moins 10 ans de cure de désendettement, public chez nous, privé aux États-Unis. Ça va être dur. Ça va être dur. Tout le monde accepte moins 40 milliards dans le budget français, mais personne ne moufte. Mais alors c'est un peu... Il y a des manifestations parce que les banquiers, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait juste socialement. Mais c'est presque un détail, si vous voulez. Ce n'est pas un détail symbolique parce qu'on voudrait que tout le monde soit solidaire. Mais le fait majeur, c'est l'ampleur du désendettement. Donc on est rentré. Donc ça veut dire que, et vous voyez les taux de croissance des pays émergents, plus 6, plus 8, plus 10. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, d'ores et déjà, la moitié de la croissance mondiale en 2010 revient aux pays émergents et en développement. Et ça ne risque pas de s'amoindrir. D'ores et déjà, les 2/3 des réserves de change, des devises, sont dans les coffres des pays émergents. Donc il va falloir s'habituer à cette parole un peu difficile qui va sortir de ma bouche, c'est que la croissance, c'est eux, et on a plus besoin d'eux qu'eux ont besoin de nous. Deuxième mot, c'est je reviens sur la question des normes ou des règles, c'est le recul de la crédibilité des règles occidentales. Je ne sais pas si vous voyez ce qui s'est passé, vous savez tous que c'est que le consensus de Washington, vous connaissez ça? C'est-à-dire, bon, la Banque mondiale et le FMI ont édicté des normes. C'est les 10 commandements. Ici, on est dans l'endroit où on peut parler des 10 commandements. Tu privatiseras. La place de l'État, tu réduiras. La convertibilité de ta monnaie, tu assureras. C'est la libéralisation de l'économie. Et donc, toutes les politiques de développement soutenues financièrement par l'Europe, par la Banque mondiale, par le FMI, par tous les grands organismes, ont suivi ce qu'on appelle le consensus de Washington. Voilà. Et bien sûr, nous, occidentaux, nous avons passé notre temps, comme nous sommes bien sûr plus développés que les autres, à expliquer comment c'était le développement. Et donc, si tu veux te développer, il faut que tu privatises, que tu libéralises, que, etc., etc. Que tu réduises la place de l'État, que tu arrêtes de subventionner, enfin, bon sang. Mais combien de temps faut-il vous le dire? Enfin, je veux dire, il faut arrêter de subventionner pour ne pas fausser les marchés. On est tous au courant. Bon, et vous avez vu en 2008, les plus grandes subventions, c'est pas que vous auriez pu imaginer, personne n'aurait pu penser que les pays capitalistes puissent apporter tellement de subventions publiques à leur économie, puissent tellement nationaliser, même aux États-Unis. C'est faramineux, on est perdu dans les chiffres. 50 milliards pour General Motors. Donc après avoir professé pendant 30 ans la libéralisation, en l'espace de 30 mois, nous avons dans le Nord fait exactement l'inverse de ce qu'on disait. Et donc les pays du Sud, qui déjà avaient quelques doutes sur la crédibilité des puissances du Nord dans un certain nombre de domaines, ont bien vu que là, on n'était pas tout à fait crédible. Et donc vous avez quelque chose qu'il faut bien appeler un manque de crédibilité, dans certains cas un sentiment de revanche sur le Nord, qui est en train de monter dans le Sud, et qui se traduit, heureusement ce sont des gens sympas, donc ça se passe bien, et qui se traduit par une position claire, c'est la demande de parité politique. Et aussi, c'est un autre truc difficile à comprendre, c'est que les pays du Sud reconnaissent qu'ils sont en retard par rapport aux pays du Nord, sur le plan technologique et du développement, mais ils savent que ce n'est qu'une question de temps, et sur le plan de la dignité politique, ils n'accepteront plus jamais autre chose que la parité. Donc le G20 est une première réponse à cet état de fait, mais on est très loin du compte. Parce que dans les instances internationales, le poids décisionnaire des pays du Nord est encore très fort. Donc la réforme de la gouvernance mondiale n'en est qu'à ses balbutiements. Et où que soit la question que vous, quelle que soit la question que vous preniez, soit régionale, soit globale, on voit monter ce thème de la demande de dignité politique et de parité dans la décision. Et ça, c'est en gros, ça s'est accentué autour de la crise de 2008-2009. Alors, deuxièmement, la deuxième question, la mondialisation est-elle coupable? Je prends deux thèmes. Inégalité et déstabilisation. Je m'expliquais. Inégalité. On dit la mondialisation. Je vais aller vite, hein, mais on y reviendra si vous voulez. La mondialisation, ça fait exploser les inégalités. C'est pas ce que montrent les chiffres. C'est pas ce que montrent les chiffres. Vous connaissez les indicateurs, ils sont tous discutables. Quand on prend l'indicateur de la pauvreté, part de la population vivant avec moins d'un dollar par jour, il y a 400 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté en moins de 20 ans. Bon. Ce graphique montre que les pays les plus insérés dans la mondialisation, type la Chine, ont à la fois une croissance générale très forte, trop de croissance du revenu ou du PIB par habitant, et un taux de croissance du revenu des pauvres très fort. C'est corrélé. Donc les pays qui rentrent dans la mondialisation ont une croissance forte et leurs pauvres se développent. Alors si vous pouvez passer. Alors regardez en bas à gauche, c'est pas très lisible, mais l'augmentation du revenu global dans un pays, vous avez le Chili, l'Inde, je vois plus les autres, la Zambie, et notamment la croissance des pauvres. Vous voyez la même idée, c'est corrélé. Plus ça se développe, plus ça se développe. Alors, des fois, le revenu des pauvres progresse plus vite que le revenu national moyen, donc il y a une baisse de l'inégalité. C'est le cas, là, du Ghana, c'est ça? Voilà. Mais le plus souvent, le revenu des riches progresse plus que le revenu des pauvres. C'est le cas des autres pays. Donc les inégalités relatives se sont accrues. Oui, mais le niveau absolu des pauvres a augmenté. ils ont augmenté moins vite, il a augmenté moins vite que le niveau de richesse des populations aisées, mais il a augmenté. Tout ça est trivial. C'est pas trivial du tout. Parce que, autour de cette question de qu'est-ce que c'est que la justice sociale, vous avez un auteur majeur qui s'appelle John Rawls, et qui, en gros, fonde sa conception de la justice, qui est en train de devenir la conception dominante dans le monde. Vous devez lire John Rawls, qui dit il y a deux caractéristiques de la justice. La première caractéristique, c'est que ce soit une règle transparente et accessible à tous. Donc, il insiste sur une procédure claire et explicite. C'est la formalisation des règles par les Américains. Et deuxième caractéristique, c'est une approche économique de la justice qui consiste à dire que est juste une politique qui consiste à augmenter le niveau de bien-être des pauvres. Si vous regardez le graphique, ils se sont moins enrichis que les riches, mais ils se sont enrichis quand même grâce à la croissance générale et à la mondialisation. Donc, John Rawls dit il y a plus de justice avec la mondialisation que sans la mondialisation. Vous pouvez ne pas être d'accord, on en discutera, mais préparez vos arguments. Hein. Pas facile. Krugman, pareil, a une position favorable au libre-échange, plus discutable. Je ne dis pas que ça, c'est pas discutable, évidemment, mais c'est solide. Et c'est très fort, c'est très puissant. C'est puissamment diffusé. Ce sont donc des doctrines, des approches avec lesquelles vous devez être familier, parce que c'est celles qui construisent la culture contemporaine, plus ou moins. Donc Krugman dit, Paul Krugman, le pape de l'économie géographique, il dit le libre-échange, c'est bien. Premièrement, si un pays n'est pas compétitif, eh bien, il y aura un ajustement du taux de change. C'est-à-dire que c'est pas grave que le pays soit pas compétitif. Il faut qu'il reste dans le libre-échange. Simplement, sa monnaie vaudra moins. Il y aura un ajustement. Et deuxièmement, s'il n'arrive pas à trouver, s'il n'est pas compétitif dans tous les secteurs, il aura bien un ou deux secteurs où il pourra se spécialiser. En fait, il a tort. Parce qu'il n'y a pas de libre ajustement des taux de change. Et vous savez que la question monétaire, comment est fixée la valeur relative des monnaies, est devenue une question très sensible. Notamment parce que, d'abord, en Europe, on n'a pas de liberté de fixation de notre monnaie, puisqu'on est dans l'euro. On ne peut pas avoir de politique monétaire, on ne peut pas ajuster notre monnaie. Le Portugal ne peut pas ajuster sa monnaie, il pourrait dévaluer. Ce serait super, après il exporte. Non, pas le droit. Tu dévalues, tu sors. Et surtout, il y a un petit pays qui ne joue pas le jeu. Il y a un petit pays qui est très favorable au libre-échange sur le plan commercial, mais pas du tout favorable à la loi du marché sur le plan de la fixation de la valeur de sa monnaie, c'est la Chine. Vous avez une contradiction, une position de force de la Chine qui dit je rentre dans l'OMC, je suis pour le libre-échange commercial, c'est super, mais je suis contre que le marché fixe la valeur de ma monnaie. Parce que si c'était les libres lois du marché qui fixaient la valeur du yuan, comme c'est une économie de plus en plus solide, le yuan vaudrait de plus en plus cher. Et ça limiterait les exportations chinoises. Donc, Krugman a tort, il n'y a pas d'ajustement automatique par le taux relatif, le taux de change et la valeur des monnaies. Deuxièmement, la spécialisation, ça ne marche pas pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps de développer. En revanche, là où il a raison, c'est quand il dit le libre-échange, c'est bien pour les pays en développement et les investissements du Nord dans les pays en développement, c'est bien pour tout le monde. Et je pense qu'il a raison. C'est la question des délocalisations. Attention au terme, il faut peut-être plutôt parler de relocalisation stratégique. C'est pas du marketing. Il faudrait discuter de ça de près. Et il a aussi raison en disant que essentiellement, ce qui se joue dans la mondialisation, là où il y a des problèmes dans les pays, c'est quand ces pays ne sont pas capables de mettre en place un nouveau pacte social pour mettre le pays en bonne marche dans la mondialisation. Et en gros, il y a un paradoxe, c'est que cette mondialisation renvoie à la question nationale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'avoir une cohésion sociopolitique importante, si vous n'êtes pas capable de protéger vos populations face au grand large et à la concurrence, si vous n'êtes pas capable de les former, si vous n'êtes pas capable de développer la technologie pour faire face à l'économie de la connaissance, etc., ben, mauvais pour vous. Et donc, finalement, la façon dont le bateau vogue sur l'océan de la mondialisation, le bateau national, est une façon qui est essentiellement une question de politique nationale. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de pays, vous l'avez vu, ont, depuis quelques années, fait des pactes politiques droite-gauche en disant il y a bien sûr des questions droite et gauche, on favorise plutôt le capital ou plutôt le travail, ça c'est toujours. Mais là, essentiellement, la phase historique dans laquelle on est, c'est comment placer le pays en bonne marche dans la mondialisation. C'est ça le grand enjeu. Donc les gens sérieux l'ont fait, genre les Allemands, et les gens pas sérieux en retard l'ont pas fait, genre les Français. Donc on le fera, c'est une nécessité. On ne peut pas jouer au jeu gauche-droite quand il s'agit de grands enjeux nationaux et de mise en place du pays dans la mondialisation, c'est impossible, ça aura une limite. Et comme la France est un pays riche, moderne et dynamique, elle passera elle aussi à une phase de consensus politique pour régler la question de la flexibilité du marché du travail, des retraites, du système public, du système technologique, etc. Ce sont des grandes questions qui ne sont pas partisanes, mais nationales. Alors, en revanche, donc je répondrai non, la globalisation n'est pas coupable sur le plan des inégalités. C'est bien. Je dis un peu vite, mais est-ce qu'elle est coupable sur le plan de la déstabilisation? Oui, il y a des marchés qui sont totalement déstabilisés par la mondialisation. Le marché financier, on l'a vu, pas la peine de. Le marché de la sécurité alimentaire. Vous ne pouvez pas avoir une sécurité alimentaire dans une économie ouverte comme elle est ouverte actuellement. Vous ne pouvez pas dépendre de quelques grands agro-exportateurs australiens, américains ou néo-zélandais. Et donc, quand on jette le lait en Normandie, c'est parce qu'une entreprise néo-zélandaise qui est leader mondial, qui a 15% du marché des produits lactés dans le monde, change sa stratégie et ça a des incidences absolument généralisées. Sur des produits aussi stratégiques que l'eau et l'alimentation, il n'est pas raisonnable, il n'est pas soutenable d'avoir une circulation généralisée, libre, de produits génériques, qui ne tiennent pas compte de la qualité, qui ne tiennent pas compte des préoccupations de sécurité alimentaire, etc. etc. Et donc, la conclusion de Maurice Allais, qui est un des rares prix Nobel d'économie français, sur toutes ces questions, c'est de dire, lui, il prend une position qui s'appelle le protectionnisme. Il insiste sur la déstabilisation, pas simplement de l'agroalimentaire, en disant... Si on laisse la confrontation entre l'Europe et des pays qui ont des systèmes sociaux complètement différents, nous allons perdre notre industrie. Et donc, il faut revenir à des politiques protectionnistes. Je vous lis le passage, parce que comme c'est un prix Nobel, ça peut être écouté, même si c'est une voix très minoritaire, mais qui, je pense, va recueillir de plus en plus de suffrages. Comme l'économie mondiale, donc il écrit ça en 99, hein, ils sont bons les universitaires, hein. Comme l'économie mondiale est actuellement dépourvue de tout système réel de régulation, voilà le mot-clé, régulation, et qu'elle se développe dans un cadre anarchique, l'ouverture mondialiste à tout vent des économies nationales ou des associations régionales, et non l'Europe, est non seulement dépourvue de toute justification réelle, mais elle ne peut que les conduire à des difficultés majeures. De l'analyse des faits constatés résultent des conclusions fondamentales. 1. Une mondialisation généralisée des échanges entre des pays caractérisés par des niveaux de salaire très différents au cours d'échanges ne peut qu'entraîner finalement partout dans les pays développés chômage, réduction de la croissance, inégalité, misère de toutes sortes. 2. Une libéralisation totale des échanges et des mouvements de capitaux n'est possible et n'est souhaitable que dans le cadre d'ensembles régionaux groupant des pays économiquement et politiquement associés et de développement économique et social comparable. Chaque association régionale se protégeant raisonnablement vis-à-vis des autres. Donc, je retiens de ce point de vue deux idées. Un, le besoin de régulation. Et deux, la pertinence de l'approche régionale. C'est mes deux questions suivantes. Là, il n'y en a pas là. Donc, sommes-nous rentrés dans l'ère de la re-régulation? Sommes-nous parvenus à trouver des règles pour organiser l'économie mondialisée? La réponse est non. La réponse est non, mais avant de montrer, c'est facile de montrer que la réponse est non, vous savez tout ça, je voudrais insister sur la justification théorique du besoin de régulation à l'intérieur de l'économie. Si l'économie est notre, je sais pas comment appeler ça, est notre, l'économie est la culture directrice de la société contemporaine. On aime, on n'aime pas, peu importe. Hein. Les décisions sont faites en fonction d'une analyse fondamentalement économique. La Chine a choisi le terrain économique pour peser dans les rapports de force mondiaux. Il y a 20 ans ou 40 ans, elle a peut-être choisi la guerre, ou je sais pas. Enfin, d'autres choses. Là, c'est le champ de bataille intellectuel et pratique, c'est l'économie. Bon. Et donc, si on veut une régulation de l'économie mondialisée, il faut une justification. Il faut que les économistes, comme ça, hein, ils ne sont pas tous d'accord, mais il faut que dans l'économie, il y ait une justification théorique pour dire qu'il y a besoin d'intervention et de régulation. Si les économistes tous nous prouvent que les marchés s'autorégulent, il n'y aura jamais de régulation. Mais heureusement, pas mal d'économistes interviennent sur une notion qui me paraît essentielle, c'est la notion de biens publics transnationaux. Les biens publics sont des biens qui ne sont pas, qui ont deux caractéristiques. Vous ne pouvez pas exclure la consommation de ce bien, par exemple la qualité de l'air. Vous ne pouvez pas exclure autrui de la consommation du bien. Et le fait que vous le consommiez ne réduit pas ma propre consommation. Donc c'est une notion centrale. Pourquoi ? Par exemple, la recherche scientifique. Je ne peux pas vous empêcher d'aller sur Google et de savoir ce que Maurice Allais a dit. Et si vous le savez, ça ne réduit pas le gâteau. D'accord ? Or, les biens publics ne sont pas tous autorégulés. Par exemple, la qualité de l'air, si vous laissez les bagnoles, se dégrade. Il faut donc une activité régulatrice, parce que les externalités positives de ces biens publics sont fortes, c'est-à-dire que quand ils sont bien régulés, c'est bon pour tout le monde, et quand ils sont mal régulés, c'est mauvais pour tout le monde. D'accord ? Donc, la notion de bien public est la notion centrale grâce à laquelle, du point de vue des économistes, une régulation, une intervention collective ou publique est possible dans l'économie mondiale. Donc, qualité de l'éducation, santé, sécurité, lutte contre le terrorisme. La Banque mondiale dit que la lutte contre le terrorisme est un bien public transnational. Et ces biens publics sont de plus en plus transnationaux. Donc, il faut une régulation transnationale. Ça va, on a la justification pour la régulation, donc on peut avoir une régulation. Donc, sommes-nous parvenus à une régulation ? La réponse est non. Il n'y a pas de légitimité des décideurs. Le G20, pourquoi pas G21, 22, etc. L'Afrique n'est pas présente, sauf l'Afrique du Sud. Et puis, deuxièmement, vous avez un certain nombre de normes dans la régulation mondiale. Notamment, l'OMC a ses normes. Les banques sont en train de fixer leurs normes. Bâle 3, je ne sais pas si vous suivez ce genre de choses. Bon. Mais pourquoi ces normes financières ou commerciales s'imposeraient-elles aux normes environnementales ou sociales ou sanitaires ? Quelle est la hiérarchie des normes ? Au nom de quoi va-t-on arbitrer ? Vous devez importer mes bananes. Mais oui, mais si vos bananes sont OGM, j'en veux pas. Ah oui, bah vous allez passer devant l'OMC. Bah oui, on va passer devant l'OMC, on va perdre, parce que l'OMC est la seule juridiction internationale. Il n'y a que le commerce qui est une juridiction internationale, plus la Cour internationale de La Haye. Mais c'est très petit par rapport à toute l'économie mondiale. Et donc, il n'y a pas d'organisation, de juridiction, qui soit et surtout, il n'y a pas de hiérarchie des normes qui soit capable d'arbitrer entre une préférence sanitaire et une préférence commerciale. Bon, donc, pas de régulation mondiale. Et d'ailleurs, Copenhague, ça ne marche pas. Le cycle du développement à Doha, ça ne marche pas. On n'arrive pas. Et donc, j'en arrive à ma dernière question. Est-ce que les grandes régions peuvent servir de laboratoire, notamment pour cette régulation internationale, et en particulier pour la régulation des relations économiques entre Nord et Sud? Alors, avant de passer les cartes, qu'est-ce que c'est que les grandes régions? Ben, c'est un territoire qu'on n'avait pas vu venir. Vous connaissez tous trois territoires, le national, le seul, le grand, le beau, le vrai, le monde maintenant, et l'infranational, le local. Eh ben, on n'a pas vu passer, on n'a pas vu arriver un territoire de quatrième type qui est la grande région. Oui, il y a l'Europe, c'est vrai. Mais non, l'Europe n'est qu'un des exemples de cette échelle internationale particulière, qui à mon avis a un grand avenir, qui est l'organisation des échanges préférentiels entre un ensemble de pays proches. L'Europe, ok, mais vous avez aussi l'ALENA, le Mercosur, vous avez la CEDEAO en Afrique, et beaucoup plus sérieux, vous avez ASEAN plus 3, le grand processus territorial qui est en train de naître sous nos yeux, c'est ASEAN plus 3. ASEAN, Asie du Sud-Est, plus Corée du Sud, plus Chine, plus Japon. Plus 5 même, Australie, Nouvelle-Zélande. Vous avez une région intégrée qui est en train de se développer, qui a compris qu'elle allait plus vendre sur les marchés occidentaux, et qui va maintenant fonder son développement sur l'intégration régionale. Et donc, un des intérêts de ces régions, c'est que c'est quand même plus commode de trouver des relations, notamment avec vos voisins du Sud, en développement, qu'à l'échelle du vaste monde. Ce qu'on a échoué à faire à Doha, dans les grands cycles de négociation de l'OMC, 200 pays parlent à 200 pays, peut-être peut-on le faire à l'échelle de régions plus petites. Je termine sur cette idée, cette hypothèse, avec quelques cartes sur l'Europe. Alors attendez, ça, c'est une visualisation du potentiel économique mondial. Et vous voyez les trois grandes régions. Vous connaissez tous ça, c'est la triade. Bon. Je veux bien là. Ça, c'est non pas le développement économique potentiel, mais le développement économique réel, vu à travers les échanges commerciaux. Là aussi, vous retrouvez des choses bien connues, c'est la triade, les trois pôles de la triade échangent entre... Mais regardez l'échelle plus fine. Autour de chacun de ces pôles, sur la carte de gauche, vous arrivez à voir tous les échanges que le Japon a avec sa périphérie, tous les échanges que l'Europe a avec sa grande région. Vous voyez ? Et dans la carte de droite, on a fait un traitement statistique qui fait ressortir tous les échanges, les commerciaux, qui sont supérieurs à ce qu'on devrait avoir si ces pays se comportaient comme la moyenne mondiale. Et on voit une surreprésentation des échanges commerciaux de type régionaux, de proximité. Alors, la question c'est, quelle est la région de l'Europe ? Elle va au-delà de l'Union européenne. Là, vous avez par exemple les pays pour lesquels le marché de l'Union européenne est très important. Vous retrouvez toute la Méditerranée et l'Afrique. Ensuite, vous avez les pays qui sont importants pour notre économie, pour nos exportations. Et puis donc, la synthèse de ces deux cartes, c'est, vous voyez, l'intersection des deux, c'est la région qui est importante pour nous, Européens, à la fois à l'import et à l'export, et vous retrouvez une bonne figuration de ce qu'est la région de référence de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe et le voisinage. Et pour ceux qui connaissent, vous savez qu'en 2004 a été lancée une politique fondamentale, qui est la politique de voisinage, qui essaye d'associer l'Europe avec tous les voisins méditerranéens et de l'Est. Donc l'enjeu est simple, c'est l'Europe, la part de l'Europe dans le PIB mondial, elle est à 20%, mais elle n'est à 20% que parce qu'il y a des élargissements successifs. Que se passe-t-il quand on a fini d'élargir ? Bon, même on a mis la Turquie là, mais bon, peu importe, Balkans, Turquie, qu'est-ce qui se passe après ? C'est le déclin. Eh bien non, ce n'est pas le déclin si nous arrivons à intégrer économiquement, pas forcément institutionnellement, les pays du voisinage. Russie, Proche-Orient, Maroc, Égypte, etc. 1 milliard de personnes. C'est pas facile, parce que là, vous avez une carte tirée de l'atlas de la mondialisation. C'est ce que pensent les étudiants du monde des différents pays. Et la caractéristique, ils pensent du bien de l'Europe et du mal de tous les voisins, notamment du monde arabe. Compliqué, faire une intégration régionale avec ces voisins-là, compte tenu de l'état des représentations. Et donc, une des tâches, je pense, de l'Europe, ça sera de réussir son intégration régionale, de tirer parti des marchés des pays émergents de sa périphérie pour être forte face aux autres grandes régions mondiales et en particulier face à la région asiatique. On peut passer à la dernière diapo. Encore une fois, même, appuyez. Vous ne voyez pas de loin, mais vous verrez sur le site. Merci.